Vous écoutez, on lit pour vous.
Dans les archives de Fugue, une chronique de Nicolas Vandal, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue. C'était un mardi gris d'hiver, le genre de journée où même Montréal semblait fatigué. Je suis arrivée aux archives gays du Québec pour fouiller dans les anciens numéros de Fugue. Je cherchais un angle original pour souligner le 500e. J'espérais qu'une idée me saute dessus entre deux vieilles pubs de sauna. Simone, l'archiviste, m'a montré où étaient les boîtes. J'ai commencé par celle des années 84 à 89. Le magazine tenait presque dans une main. Le papier était fragile et jauni par le temps. Il y avait beaucoup de pubs de bar. Le PJ, le Club David, la boîte en haut, le gant de velours, l'écusse. On y annonçait des expos à l'androgyne et des films au cinéma du village. Des places fermées depuis une éternité, mais les voir là me donnait presque l'impression qu'elles étaient encore ouvertes. Je dois avouer que les photos de gars, dans les premiers numéros, ont pas mal monopolisé mon attention. Disons que Fugue ne laissait aucune place à l'imagination. C'était typique des magazines gays de l'époque. Pourquoi se censurer quand le reste de la société faisait tout pour qu'on ne nous voie pas? Et ça devait être pas mal plus satisfaisant que de se rabattre sur le catalogue Sears pour contempler la beauté masculine. Le magazine n'était pas là juste pour permettre aux gars de se rincer l'œil. Dès le début, le docteur Régent Thomas informait les lecteurs de l'apparition du sida. Il recommandait aux gens de passer un test cutané pour savoir s'ils étaient porteurs d'une bonne immunité. C'était le seul outil disponible avant l'arrivée du test de dépistage en 1985. C'était particulier de lire qu'il n'y avait, à ce moment-là, que 5000 cas aux États-Unis. Yves Lafontaine, notre rédacteur en chef, a déjà raconté en entrevue qu'à l'époque, plusieurs s'étaient plaints. Ils criaient à la désinformation, disaient que c'était faux, jusqu'à ce que la maladie frappe fort ici aussi. Dans le numéro de mars 1987, je suis tombée sur une petite révolution. L'arrivée de Claudine Metcalf. Elle a débarqué dans l'équipe comme une gazelle parmi les fauves pour enfin donner la parole aux lesbiennes. Sa première chronique pose la question. « Où êtes-vous, mesdemoiselles ?» Elle restera 16 ans et dira elle-même que cette longévité a été possible grâce aux gens de Fugue. Les lesbiennes continuent d'être moins impliquées que les gays, mais elles ne peuvent reprocher aux gars de Fugue de ne pas vouloir leur faire une place qui leur revient. Depuis 2017, c'est Julie Vaillancourt qui a pris le flambeau avec sa rubrique « Où sont les lesbiennes ?» Comme quoi, on n'a toujours pas la réponse. J'ai ouvert la boîte des années 90. Le magazine a pris du galon. On y trouvait encore plus d'entrevues, de photos de soirées, de la pub, des idées de sortie. Son format m'a tout de suite fait penser à un TV hebdo. En même temps, tout était loin d'être réglé. Il y avait encore de l'homophobie et des droits à acquérir, et un virus qui ravageait la communauté. On parlait beaucoup du sida, de séro-zéro, des comités de lutte pour les droits des couples de même sexe. Dans ce temps-là, les journaux ne mentionnaient pas le sida dans leur nécrologie. Fugue, lui, le faisait. Dans chaque numéro, il y avait des avis de décès d'hommes dont beaucoup avaient environ mon âge aujourd'hui. J'ai pris un moment pour les lire. Ça m'a touchée. Je me suis aussi dit que ça aurait pu être mon chum ou moi si on était nés 30 ans plus tôt. Pendant mes fouilles archéologiques queers, je suis tombée sur un dossier de mars 1995 qui portait sur les dragues d'ici. On y présentait Stella Spotlight comme la grand-mère de toutes, celle qui faisait freaker les punks aux foufounes électriques. Il y avait Scarabitch, qui chantait rogue comme Janis Joplin, et Ivanovitch, qui marquait les nuits du village avec ses imitations légendaires de Nina Hagen. On apprenait que Mado était en Europe, à la recherche du vrai monde, et que Nana de Grèce délaissait un peu la scène pour ses études en théâtre. Le texte nommait aussi Nicole, Daphné de la Vengeance, Huguette Bonnechance, Pico et Georgette. À part Mado et Nana, je ne connaissais personne. Je me suis quand même demandé ce qu'elles étaient toutes devenues. Dans le même numéro, J'ai lu une lettre dans le courrier des lecteurs. Un gars se disait attristé et désemparé que Fugue publie des annonces de gars adeptes de sadomasochisme qu'il trouvait inacceptables. La réponse de l'équipe était excellente. Fugue a contribué et contribue à notre visibilité. Laissons à tous le droit d'y avoir accès. Il est toujours possible de tourner la page d'une section qui nous déplaît, mais nous n'avons pas le droit de faire disparaître, de censurer une réalité étrangère à notre propre morale. Ça résume parfaitement l'esprit du magazine. Arrivé au tournant du millénaire, mes yeux commençaient à me lâcher. Ma réserve de caféine était à sec. Alors, j'avoue que j'ai commencé à passer les pages un peu plus vite. Même à ça, je voyais clairement un changement. Le magazine s'épaissit. Le papier devient glacé. Les chroniques culturelles prennent plus de place. Il y a aussi des visages connus en couverture et en entrevue. Gros bravo d'ailleurs pour avoir réussi à décrocher une entrevue exclusive avec Madonna. Entre des reportages sur diversité et des idées de déco, je suis tombée sur des textes percutants traitant de stigmatisation, de droits ou de l'insécurité persistante dans le village. Le ton reste engagé, mais s'adapte aux nouvelles réalités. Au fond, Fugue a toujours été le miroir de son époque, reflétant avec la même intensité nos luttes, nos joies et nos excès. En refermant la dernière boîte, je n'étais pas nostalgique ni troublée. Je connais assez bien notre histoire. Mais il y a tout un monde entre connaître les faits et les lire de la bouche de ceux et celles qui les vivaient au moment où ça se produisait. C'est un exercice que je recommande à tout le monde. J'ai salué Simone avant de sortir. Montréal était resté gris. En marchant vers le métro, je me suis dit que, sans le papier de Fugue et le travail des archives pour le conserver, plusieurs morceaux de notre mémoire collective auraient simplement été effacés. C'était dans les archives de Fugue, une chronique de Nicolas Vandal, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue.
Pendant que les femmes meurent, un texte de Stéphane Dompierre, paru le 3 mai 2026 dans la presse. Le jour où je me suis assis pour écrire mon petit texte léger du dimanche, j'ai appris que, 1. Au Québec, on en était au 9e féminicide présumé depuis le début de l'année. 2. Au Brésil, des hommes s'entraînent à des sports de combat afin d'attaquer les femmes qui refusent leurs avances. 3. Une enquête de CNN dévoile qu'aux États-Unis, il y a un site web où des hommes apprennent des méthodes pour droguer des femmes et les violer qui cumule 62 millions de vues en un mois. Oh que j'aurais préféré vous offrir mes petites blagounettes habituelles, mais ça ne sera pas possible. Les gars, ça se peut que votre café passe mal en lisant la suite. Mais ne jouez pas au martyr. Vous n'êtes pas en danger de mort. Vous risquez seulement d'avoir honte, et peut-être qu'il est temps. Peut-être que ce serait un bon début, et même un signe rassurant, que vous voyez le monde tel qu'il est, celui dans lequel les femmes vivent, celui dans lequel les femmes meurent. Les petits loupiots, il est temps de lâcher ce rôle ridicule de mâle alpha protecteur de la meute. C'est du théâtre d'école primaire. Ça ne trompe plus personne. La seule personne que nous protégeons en faisant ça, c'est nous-mêmes. La seule chose que nous soutenons avec cette attitude, c'est le système patriarcal qui nous permet d'affirmer « c'est pas moi, j'ai rien fait » et de regarder ailleurs, de faire comme si de rien n'était. Si vous ne voyez pas la violence dans laquelle trempe le patriarcat, c'est que vous avez de la merde dans les yeux. C'est connu, les femmes préfèrent croiser un ours dans les bois plutôt qu'un homme, parce que l'ours n'attaque pas sans raison. L'ours ne viole pas, et si la femme est attaquée par un ours, on la croira. Chaque femme a ses raisons de préférer l'ours, je ne vais pas en dresser une liste exhaustive ici. Ce débat a été fait et refait. Demandez à celles que vous connaissez, parce que vous êtes encore nombreux à refuser l'idée que l'homme est un danger pour la femme, alors que toutes les comparaisons possibles ont été faites pour l'exprimer simplement. Un exemple parmi tant d'autres. J'ouvre un sac de bonbons et je vous offre de piger dedans. Ne vous inquiétez pas, c'est un gros sac et il n'y a que 2 bonbons mortels dedans. Est-ce que ça vous donne envie d'en manger? Non? Si des femmes préfèrent éviter les hommes, c'est qu'elles ont de bonnes raisons de le faire. Le constat est désolant et inconfortable, mais il faut le faire. Bien des hommes violent. Bien des hommes tuent. Des hommes qui n'ont pas encore violé écoutent des tutoriels pour apprendre à le faire. On commence à être loin des minables masculinistes puceaux qui en arnaquent d'autres en leur vendant des conseils pour séduire les femmes, là. On est dans le crime. Décomplexé. Un parent, un ami, un voisin, un collègue, bientôt, violera, tuera. Et il faut abandonner une fois pour toutes ce cliché du violeur inconnu qui surgit d'une ruelle lors d'une nuit brumeuse. 90% des femmes victimes de violences sexuelles connaissaient leur agresseur. À partir de là, on fait quoi? Il faut être attentif aux propos des hommes autour de nous, s'interposer, questionner, nommer le sexisme, demander des explications devant une blague misogyne, condamner un geste déplacé. Il faut parler de consentement, d'égalité. Il faut rouler des yeux devant le mansplaining. Les hommes problématiques n'ont pas besoin d'amis qui les laissent complaire dans leur violence. Ils ont besoin d'être exposés, d'abord. De constater que leurs paroles ou leurs comportements ne passent plus. Certains ont besoin d'aide professionnelle et parfois de quelqu'un qui leur fera réaliser qu'ils ont besoin de cette aide. Il faut être l'ami gossant, celui qui parle de masculinité positive, d'écoute et de bienveillance, qui déconstruit le modèle patriarcal dépassé. C'est triste, mais tout ce que j'écris ici a été dit 100 fois, 1000 fois par des femmes, et nous ne les entendons pas. Elles appellent à l'aide, elles se noient et notre premier réflexe est de répliquer « J'ai rien fait, c'est pas moi, not all men ». Elles sont épuisées de donner patiemment des explications à des hommes qui ne s'indignent pas avec elles. C'est un problème de société et si la moitié de l'humanité reste là sans bouger, rien ne va changer. Et je sais qu'il y a des hommes qui seront plus offensés par ce texte que par la violence envers les femmes. Parce que c'est plus facile d'être en colère contre une personne qu'on ne connaît pas que contre un système que l'on nourrit par notre silence. C'était « Pendant que les femmes meurent », un texte de Stéphane Dompierre paru le 3 mai 2026 dans la presse.
Les additifs alimentaires augmentent le risque de diabète. Un texte de Florence Dujoux paru le 2 octobre 2025 dans Québec Science. Plusieurs études récentes associent les additifs alimentaires à un risque accru de diabète de type 2. C'est solidement démontré. La consommation d'aliments ultra-transformés comme les plats industriels préparés, les biscuits et les boissons sucrées augmente le risque de diabète de type 2, en plus d'augmenter les risques de maladies cardiovasculaires et de cancer. Bourré de sucre, de gras saturés et de sel, ces aliments comptent pour la moitié des calories consommées au Canada. En 2020, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, EREN, en France, avait été la première à faire état d'une telle association sur une large population d'études. Son atout, la cohorte épidémiologique Nutrinet Santé, lancée en 2009. Les participantes et participants, plus de 180 000 à ce jour, remplissent régulièrement des questionnaires en détaillant tous les aliments et boissons consommés sur 24 heures et donne accès à leurs données de santé, poids, activité physique, antécédents médicaux, etc. L'équipe a voulu aller au-delà des sucres, des gras saturés ou du sodium que l'on sait nocifs s'ils sont consommés en excès. Notre objectif était de savoir précisément quels ingrédients contaminants ou composés pouvaient causer la maladie, explique Mathilde Touvier, directrice de l'IRENE à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Un programme de recherche consacré aux additifs alimentaires a donc été lancé. Comme leur nom l'indique, ces substances sont ajoutées aux aliments pour améliorer leur texture, leur saveur, leur couleur ou leur conservation. Au Canada, environ 450 additifs alimentaires sont autorisés, contre un peu plus de 300 en Europe. Et ils font partie des suspects sérieux pour expliquer les effets négatifs des aliments ultra-transformés sur la santé. Plusieurs additifs liés au diabète. Les premières publications de l'équipe française ont quantifié l'apport en additifs dans la population NutriNet Santé. Le nom des marques achetées est indispensable à l'exercice puisque la teneur en additifs varie au sein d'une même catégorie de produits, par exemple les biscuits aux pépites de chocolat. Les scientifiques se sont ensuite intéressés aux effets de chaque substance. Ils ont lié la consommation de nitrites, des conservateurs présents dans les charcuteries, et d'édulcorants, des substituts du sucre fréquents dans les produits allégés comme l'acésulfame de potassium, l'aspartame et le sucralose, à un risque accru de diabète de type 2. En 2024, une étude publiée par l'IRENE dans la revue The Lancet Diabetes and Endocrinology a aussi trouvé une association entre le diabète et certains émulsifiants, des additifs utilisés pour améliorer la texture et augmenter la durée de conservation des aliments, entre autres les carrageenans. D'autres travaux sont en cours sur les colorants et les conservateurs. Et l'effet cocktail. Leur étude la plus récente, parue dans PLOS Medicine en avril 2025, a porté sur les mélanges de substances dont l'effet combiné n'avait encore jamais été étudié. Nous ne consommons pas les additifs un par un, mais plutôt sous forme de mélange, souligne Mathilde Touvier. Les produits industriels en contiennent souvent plusieurs, sans compter que certains aliments et boissons sont consommés en même temps. L'équipe a tenu compte des additifs répertoriés dans le régime alimentaire d'au moins 5% des participants de NutriNet Santé. Elle a repéré des cocktails de substances souvent associés, puis elle a cherché des liens entre leur consommation et le développement du diabète sur près de 8 ans de suivi. Résultat, on a identifié 5 mélanges fréquents dans le régime des participants, dont 2 étaient liés à un risque accru de diabète, poursuit la chercheuse. Elle se montre toutefois réticente à donner des pourcentages d'augmentation de risque, puisque les traitements statistiques successifs sont difficiles à interpréter pour le grand public. Le premier mélange incriminé était composé de plusieurs émulsifiants, d'un conservateur, sorbate de potassium, et d'un colorant, curcuma. Ce cocktail se trouve dans une grande variété de desserts lactés, de sauces, de bouillons et de matières grasses industrielles. Le second était constitué d'additifs typiques des boissons sucrées ou allégées, comme des régulateurs d'acidité, des colorants, caramel, anthocyanine, paprika, des édulcorants, acésulfame de potassium, aspartame, sucralose et des émulsifiants. Un rôle majeur. L'un des défis de l'évaluation de ces substances, c'est qu'elles se trouvent souvent dans les aliments riches en gras, en sucre ou en sodium. L'effet observé sur le diabète est-il le fait des additifs ou de la mauvaise qualité nutritionnelle des aliments? Sur la base d'une seule étude, on ne peut pas dire qu'on a éliminé tous les biais, répond Mathilde Touvier. Mais l'analyse a pris en compte de nombreux facteurs de risque, comme l'âge, le poids, les antécédents familiaux, l'alcool et la qualité globale de l'alimentation, dont les apports en sucre. Et les résultats demeurent significatifs. Selon elle, la question se pose plutôt dans l'autre sens. Quelle est la part de la relation entre aliments ultra-transformés et diabète qui s'explique par l'exposition aux additifs étudiés? Jean-Philippe Drouin-Chartier, professeur à la Faculté de pharmacie et chercheur au Centre Nutrition, Santé et Société de l'Université Laval, estime que la publication est solide et qu'elle fait avancer le débat sur les aliments ultra-transformés. Cette étude indique qu'au-delà de la valeur nutritionnelle, la présence des additifs en tant que tels peut influer sur la santé, dit-il. Si une seule publication n'autorise pas à conclure sur le lien de cause à effet, l'ensemble des études menées jusqu'ici par différentes équipes permet de commencer à avoir des arguments en sa faveur. Pour décortiquer les mécanismes d'action des additifs, les scientifiques les testent sur des modèles animaux ou sur des cellules. Selon une étude parue dans Nutrition and Diabetes en 2024, l'exposition de cellules animales et humaines à la carrageenine provoque justement une inflammation, altère la tolérance au glucose et contribue à l'insulinorésistance, c'est-à-dire à une moins bonne réponse à l'insuline, une caractéristique du diabète de type 2. Aucune étude n'a cependant encore isolé les effets des additifs sur la santé chez les humains. Privilégier les aliments frais. L'étude de Nutrinet Santé sur les additifs et le diabète est une autre démonstration de l'importance de faire plus de place aux aliments frais et minimalement transformés dans l'alimentation, souligne Jean-Philippe Drouin-Chartier. Pour aider la population à faire des choix sains, le nouveau logo d'avertissement de Santé Canada, entré en vigueur depuis janvier 2026, est apposé sur les aliments trop riches en gras saturés, en sucre et en sodium. Même si ce n'est pas parfait, il y a une très bonne correspondance entre la présence de ce symbole et le fait que l'aliment est ultra transformé, estime le chercheur. Une saine alimentation, composée en majorité d'aliments végétaux frais, constitue l'un des meilleurs facteurs de prévention du diabète de type 2. C'était « Les additifs alimentaires augmentent le risque de diabète ». Un texte de Florence Dujoux, paru le 2 octobre 2025 dans Québec Science.
Cinq chiffres pour comprendre la voie maritime du Saint-Laurent. Un texte d'Anne-Laure Janson, paru le 4 mai 2026 dans la presse. Le trafic est stable depuis quelques années sur la voie maritime du Saint-Laurent, selon Serge Auclair, vice-président aux relations commerciales et externes de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, dont le travail consiste à soutenir de nouvelles stratégies pour augmenter le nombre de passages de cargo sur cette autoroute maritime. Voici quelques chiffres qui permettent d'en saisir l'ampleur. 37 millions de tonnes. L'année dernière, la voie maritime, réseau d'écluses et de canaux qui s'étend entre Montréal et le lac Érié, a permis le transport de 37 millions de tonnes de marchandises. Il s'agit principalement de vrac, céréales, minerais de fer ou potasse. Dans les dernières années, le trafic est resté stable. Toutefois, on aurait la capacité de doubler ce volume, dit Serge Auclair. Pour ce faire, une des stratégies envisagées est de faire transiter des conteneurs jusque dans les grands lacs. Ça permettrait de décongestionner les autoroutes et de décarboner aussi, ajoute-t-il. Pour cela, il faudrait que les ports intérieurs au Canada puissent faire du dédouanement, ce qui n'est pas le cas actuellement. 68e saison. Nous sommes dans la 68e saison de navigation de la voie maritime telle qu'on la connaît actuellement. Elle a été inaugurée le 26 juin 1959 lors d'une cérémonie officielle en présence de la reine Élisabeth II, du président des États-Unis Dwight D. Eisenhower et du premier ministre du Canada John Diefenbaker. Cette route maritime, sur laquelle s'échelonnent 13 écluses canadiennes et 2 écluses américaines, est considérée comme l'une des merveilles techniques du XXe siècle. C'est notre vision à nous du canal de Panama, lance Serge Auclair. Quand on s'attarde à tous les éléments techniques et d'ingénierie nécessaires pour créer ce système, avant l'arrivée de l'ordinateur, c'est très impressionnant. Selon le Premier ministre Mark Carney, ce projet a construit la nation. Il a permis de connecter les marchés intérieurs du Canada vers l'océan. 3700 km. C'est la longueur de ce qu'on appelle l'autoroute H20 qui relie l'océan Atlantique au Grand Lac et qui se parcourt en environ 8 jours et demi de navigation. La voie maritime du Saint-Laurent joue un rôle crucial dans celle-ci, puisqu'elle permet aux navires de passer du fleuve Saint-Laurent au lac Ontario, puis de celui-ci jusqu'au lac Erie. Il est estimé que le transport de marchandises sur la voie maritime du Saint-Laurent soutient 357 000 emplois et 66 milliards de dollars d'activité économique. 350 millions. La voie maritime réalise actuellement un programme triennal d'investissement de 350 millions de dollars dans l'ensemble de ses infrastructures. Ces investissements contribueront au maintien des actifs et à la fiabilité du réseau. Au total, 170 millions de dollars sont consacrés à la région Montréal-Lac-Ontario et 180 millions à la région du canal Welland. On parle de maintien de ponts, de canaux, de murs d'écluses, de portes d'écluses. On ne développe pas d'infrastructures, dit M. Auclair. Étant donné l'âge du réseau, il est important de s'assurer de ne pas accumuler de déficits d'infrastructures. Le gouvernement fédéral finance ce maintien des actifs. 964 camions. Selon la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, un navire qui transporte 30 000 tonnes de marchandises équivaut à 301 wagons de chemin de fer ou à 964 camions. Et son bilan carbone est meilleur. Avec 1 litre de carburant, une tonne de marchandises peut parcourir 358 km en bateau, alors qu'en train, elle ne fait que 225 km, et en camion, 41 km, selon les estimations de la corporation. C'est pourquoi elle insiste sur le fait que le transport maritime représente une excellente façon de favoriser une croissance durable tout en réduisant la congestion du réseau de transport terrestre. C'était 5 chiffres pour comprendre la voie maritime du Saint-Laurent. Un texte d'Anne-Laure Janson, paru le 4 mai 2026 dans la presse.